fait trop de bien. Ça dégourdit les jambes, allez-y.
J'adore ça. Moi, je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous, bordel.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les t-shirts d'herbe, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. C'est en France. Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
cool. Sortez les jambes.
Ok, vous voulez sortir?
Au chien bleu, j'ai sorti.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sorti tous avec nous.
Sors!
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Sortez, la quotidienne socio-culturelle étudiante Tourangelle. Nous sommes le jeudi 23 février 2023 et nous sommes en direct du studio de Radio Campus Tours. Alors, je le rappelle au cas où vous n'auriez pas suivi les dernières émissions de cette semaine, mon cher collègue Antoine n'étant pas avec moi pour faire l'émission, j'ai décidé de consacrer cette semaine sur le sujet des questions queer et LGBTQIA+. Alors, pour faire un petit résumé de ce que vous avez pu écouter depuis 3 jours, lundi, j'ai laissé la parole à Thibaut de Radio Campus Clermont-Ferrand qui a publié un reportage nommé « Entre fêtes et solidarité dans la communauté queer ». Et donc, cette chronique décrypte les rapports entre militantisme et solidarité au sein de la communauté LGBTQIA+, comme c'est le cas depuis Stonewall. Ainsi, Thibaut soulève les questions comme pourquoi manifester en festivité, pourquoi la fête peut être un safe space et comment une communauté prend de force la visibilité qui lui a traditionnellement été retirée. Donc ça, c'était pour lundi. Pour le mardi, nous avons diffusé l'interview que j'ai eu la chance de faire avec Irène Théry, sociologue spécialisée dans la sociologie du droit, de la famille et de la vie privée, en compagnie de Chloé de Radio Béton, à l'occasion des 30 ans du festival Désir Désir. Ensuite, mercredi, j'ai eu l'honneur de faire une émission haute en couleur avec Quenelle de Brest, performeur burlesque. Et donc aujourd'hui, je vous ai préparé une émission avec au programme une chronique faite par mes soins sur Freddie Mercury et son rapport à la communauté queer. Un nouveau numéro aussi du récap de Noah, où vous allez aussi découvrir la nouvelle chronique proposée par Paul qui s'appelle la Revue Géographique. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça par vous-même juste après. Je vous ai aussi préparé un nouveau JCVD, donc jeudi compilation de vos découvertes. Et pour finir, une page d'actu Tourangelle pour finir sur un point culture. Bref, de quoi ne pas s'ennuyer pendant une heure. Alors, comme je vous l'ai annoncé, nous allons consacrer une bonne partie de l'émission sur un sujet que je trouve hyper intéressant. En effet, nous allons parler de l'un de mes chanteurs préférés. J'ai nommé Freddie Mercury. Alors Freddie Mercury, bon, on va pas se mentir, c'est un des plus grands artistes rock et showman des années 70-80. Mais bon, je comprends que tout le monde ne connaisse pas Freddie Mercury. Donc je vais faire pour vous un petit point biographie pour bien que tout le monde cerne un petit peu le personnage. Alors Freddie Mercury, de son vrai nom Farouk Pluto Bulsanara, né le 5 septembre 1946 à Zanzibar en Tanzanie, était un chanteur de rock lyrique britannique. Il fut éduqué dans la pension Saint-Peter près de Bombay en Inde, où il apprit le piano et participa à son premier spectacle avec son groupe Les Hectics. C'est aussi à Saint-Peter qu'il a pris son nom Freddie et rapidement ses parents utilisèrent ce surnom. Après la révolution de Zanzibar, Freddie et sa famille furent forcés de se réfugier en Angleterre, où il continua à étudier pour obtenir un diplôme en art et en conception. Avec une étendue vocale de 3 octaves et demi et quelques techniques d'opéra, il était l'un des chanteurs rock les plus passe-partout et techniquement accomplis. Il fut le compositeur de plusieurs des succès du groupe Queen qu'il a cofondé en 1970, avec par exemple le titre de Bohemian Rhapsody qu'on a entendu tout à l'heure, Somebody to Love ou encore We Are the Champions. Ses performances scéniques avec Queen participent à sa grande popularité et sa prestation au Live Aid en 1985 dans le stade de Wembley marquera fortement les esprits. Et il sortit 2 albums solo, Mr. Bad Guy en 85 et Barcelona en 88. Et donc en tant que véritable icône de la pop culture, en 2018, un biopic a été créé pour raconter son parcours au sein de Queen, appelé Bohemian Rhapsody. Le film va remporter un important succès international et de nombreux prix, notamment pour son interprète principal Rami Malek, et devient le film biographique musical le plus rentable de l'histoire. Mais vous allez me dire, bon ok d'accord Freddie Mercury c'est cool, mais c'est quoi le rapport avec le thème de cette semaine? Eh bien pour la simple et bonne raison que presque 30 ans après sa mort le 24 novembre 1991, sa vie privée a été étudiée sous tous les angles, faisant de l'artiste une figure de la communauté queer. Pourtant, de son vivant, le chanteur évoquait très rarement sa sexualité. Freddie Mercury aurait découvert son homosexualité lorsqu'il était enfant et aurait eu une relation amoureuse avec un jeune garçon, ce qui était parvenu aux oreilles de ses parents et qui aurait provoqué un énorme malaise chez lui. Plus tard, alors que la presse à scandale anglaise faisait ses gros titres sur les relations privées de Freddie Mercury, c'est réellement le lendemain de sa mort que le monde eut la confirmation de l'homosexualité du musicien et à travers des déclarations du guitariste de Queen, Brian May, sur un plateau de télévision. Ayant eu des relations amoureuses avec des hommes et des femmes, on pourrait aujourd'hui le définir comme bisexuel, même si cela est encore discuté chez certains fans. Et donc la question serait alors, qu'est-ce qui relie Freddie Mercury à la culture queer, lui qui n'a jamais revendiqué une quelconque appartenance ? Et bien, dans une scène rock majoritairement masculine, voire sexiste, Freddie Mercury a montré, je cite, « une virilité autre », selon Maxime Donzel, réalisateur du documentaire « Tellement gay ». S'inscrivant sur la scène glam rock dans les années 70, il a arboré de nombreux costumes colorés, pailletés et moulants. La décennie d'après, Freddie Mercury a continué à se jouer des codes avec son célèbre travestissement dans le clip « I Want to Break Free ». C'est d'ailleurs avec ce titre que nous allons marquer une courte pause musicale qui, comme nous l'avons dit, est un des titres phares du groupe Queen. On se retrouve juste après d'en sortir.
I'm
Et c'était le titre I Want to Break Free du groupe Queen dans Sortez. Juste avant la pause, j'étais en train de vous parler du rapport qu'a aujourd'hui le chanteur du groupe Freddie Mercury avec la communauté LGBTQIA+. Et donc pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on essayait de comprendre comment avec le clip de I Want to Break Free, Freddie Mercury se jouait des codes. En effet, Selim Roher, auteur de l'essai biographique Freddie Mercury, revient sur ce clip qui a valu au groupe d'être censuré par la chaîne MTV aux États-Unis. Je cite « Freddie Mercury a subi l'homophobie de très près. Le travestissement dans le clip de I Want to Break Free, qui à l'origine était une idée du batteur Roger Taylor, a été pris comme une déclaration de queerness. L'Amérique un peu facho, blanche, patriarcale et sexiste s'est dit « On ne va sûrement pas faire écouter ça à nos enfants », déclare-t-il. Enfin, pour renforcer l'idée que Freddie Mercury ne voulait pas mettre en lumière sa sexualité, il faut savoir qu'il n'a révélé sa maladie du VIH que quelques jours avant sa mort. D'ailleurs, après la mort de Freddie Mercury en 91, les membres restants de Queen, donc Brian May, Roger Taylor et John Deacon, fondent le Mercury Phoenix Trust, une organisation caritative qui lutte contre le sida dans le monde. En 1992, il organise le Freddie Mercury Tribute, un concert de charité afin de collecter des fonds pour la recherche sur le sida. Et pour conclure cette chronique sur une note un peu plus joyeuse, je vais citer la conclusion de l'article du Média Manifesto 21, dont je me suis beaucoup inspirée en vous faisant cette chronique. Donc, je cite, « L'art de Freddie Mercury lui servait de défouloir, il était pour lui un safe space dans lequel il pouvait apporter des identités hybrides et multiples. Son biographe Selim Roher conclut, « En étant universel, il a normalisé quelque chose qui ne l'était pas. Il est rentré dans la conscience et dans l'imaginaire collectif. » Pour une personne de sa génération et de son époque, il a très bien su manœuvrer et a été efficace dans ce qu'il proposait. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur cet artiste haut en couleur. Aussi, je veux vous encourager à lire l'article du Manifesto 21 que je viens de citer, qui s'appelle « Freddie Mercury de l'immigré queer à la rockstar universelle » et qui traite non seulement du lien avec la communauté queer, mais pose une question plus large, mais non moins intéressante. Les artistes queer et racisés peuvent-ils prétendre à un universalisme sans être renvoyés à leurs conditions ? Et on va maintenant passer à une deuxième pause musicale avant d'enchaîner avec la suite de l'émission. Et donc je vais vous proposer d'écouter un dernier titre du groupe Queen, histoire de rendre un dernier hommage à Freddie Mercury. Et je vais donc vous proposer le titre « The Show Must Go On », l'un des derniers titres que l'artiste a composé, comme pour écrire une sorte de testament destiné à son public. On se dit à tout à l'heure dans Sortez.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Still stays on.
C'était The Show Must Go On d'En Sortez, donc la dernière musique que je vous passe du groupe Queen sur Radio Campus Tour. Donc après cette chronique sur Freddie Mercury, nous allons poursuivre l'émission avec maintenant de l'actualité, avec le récap de Noah pour parler de ce qui s'est passé le mois dernier. On t'écoute Noah.
Bonjour à tous, c'est Noah pour une nouvelle chronique, le récap. Si jamais pour une raison comme une autre, vous n'avez pas suivi l'actualité du mois, ce n'est pas grave. Sur un peu moins d'une dizaine de minutes, je vais vous présenter quelques actualités du mois passé.
Et aujourd'hui, on s'attaque au mois de janvier. Et je débute avec une bonne nouvelle, la couche d'ozone devrait se reconstituer d'ici 40 ans. C'est ce qu'estiment les experts mandatés par l'ONU, qui indiquent que la couche d'ozone devrait retrouver les valeurs de 1980, avant l'apparition du trou, d'ici environ 2066 au-dessus de l'Antarctique et 2040 dans le reste du monde. La couche d'ozone est essentielle à la vie sur Terre puisqu'elle agit comme un bouclier contre certains rayons ultraviolets nocifs, des UV qui peuvent provoquer des cancers de la peau chez l'homme. C'est en 1985 que l'on découvre la présence d'un trou dans cette couche au niveau de l'Antarctique pendant le printemps austral. Les scientifiques découvrent que ce phénomène est lié à la libération de molécules chimiques produites par l'homme, appelées les chlorofluorocarbones, CFC, ainsi que les halons. On les retrouvait notamment dans les aérosols et les frigidaires des années 70. En 1987, le protocole de Montréal a été adopté afin d'éliminer les substances appauvrissant la couche d'ozone. Et tous les 4 ans, l'ONU Environnement établit un rapport afin d'évaluer son état, et selon le dernier en date, sa reconstitution est donc en bonne voie. Le Brésil au bord du coup d'État. À Brasilia, la capitale, les 3 lieux du pouvoir, palais présidentiel, congrès et siège de la Cour suprême, ont été envahis le 8 janvier par des milliers de personnes. Des partisans de Jair Bolsonaro, le président sortant, contestent encore les résultats des dernières élections présidentielles. L'armée n'a pas suivi le coup de force et a fini par faire quitter les lieux aux manifestants. Cet événement nous rappelle évidemment la prise du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Le président Lula a démis de ses fonctions le chef de l'armée de terre ainsi qu'une cinquantaine d'officiers. Quant à Bolsonaro, qui vit désormais en Floride depuis les élections, il conteste toute implication dans ces violences. Un Sahel qui se tourne vers la Russie. À l'évidence, l'influence russe se projette de plus en plus sur le Sahel par l'intermédiaire du groupe de sécurité privée Wagner. Déjà bien implanté en Centrafrique, où ce groupe de mercenaires assure la sécurité des hommes du pouvoir du pays et exploite de nombreuses mines de diamants, il s'est implanté au Mali, soutenant le groupe militaire au pouvoir. Son arrivée au Mali coïncide avec le départ des soldats français présents dans le cadre de l'opération Barkhane. Le Burkina Faso se signale lui aussi par des manifestations anti-françaises et où fleurissent les drapeaux russes. Le porte-parole de la nouvelle junte au pouvoir a réclamé à son tour, en janvier, le départ des soldats français présents dans le cadre de l'opération Sabre qui était fondue dans l'opération Barkhane. Déployées au Sahel depuis 14 ans, les forces spéciales françaises de l'opération Sabre vont quitter le Burkina Faso d'ici un mois. Basée près de la capitale Ouagadougou, cette force a œuvré contre le djihadisme dans le Sahel. Un projet de mine en Allemagne qui fait débat. En effet, le village de Lützras, qui se situe à l'est de Cologne, doit disparaître pour permettre l'extension d'une immense mine de lignite à ciel ouvert, l'une des plus grandes d'Europe. Sa surface est équivalente à celle de la ville de Lyon. Le village avait été évacué, mais des milliers d'opposants s'y sont installés depuis quelques mois dans plusieurs campements. De nombreux affrontements avec la police ont eu lieu et on a vu la figure écologiste Greta Thunberg se faire arrêter sur les lieux. L'accord passé en octobre dernier entre la compagnie allemande RWE et les autorités prévoit la destruction du village en échange d'une fin accélérée de l'exploitation du bassin minier rhénan. La date de sortie définitive est avancée à 2030 contre 2038 auparavant. La compagnie RWE abandonne également son projet de raser 5 villages voisins de Lützrath. Le gouvernement juge nécessaire l'extension de la mine pour la sécurité énergétique de l'Allemagne, qui doit compenser l'interruption des livraisons de gaz russe. La France et l'Allemagne ont célébré en janvier les 60 ans de la signature du traité de l'Élysée, scellant ainsi l'amitié franco-allemande le 23 janvier 1963. Événement majeur dans l'histoire de cette amitié, ce traité, signé par De Gaulle et Konrad Adenauer, demeure la base d'une vaste coopération. À l'occasion du sommet franco-allemand du 22 janvier 2023, le président de la République Emmanuel Macron a souhaité célébrer cet accord, véritable marqueur de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Pour les signataires, il était également important que ce traité permette aux citoyens des deux pays de se rapprocher en apprenant à se connaître et à se parler. Cette amitié s'est concrétisée par la signature de plus de 2300 jumelages et un foisonnement d'initiatives de la société civile. En France, la réforme des retraites proposée par le gouvernement fait l'objet de vives contestations. Pour faire passer sa réforme, le gouvernement met en avant le déficit du système des retraites, un constat fondé sur les prévisions du Conseil d'orientation des retraites. L'institution considère toutefois que les dépenses des retraites sont stables à long terme. Pour défendre sa réforme, l'exécutif mise avant tout sur la nécessité économique. Face à un système en péril et déficitaire, il y aurait urgence à repousser l'âge légal de départ à 64 ans et ainsi de renflouer les caisses des retraites. La réforme viserait donc à réformer le système de retraite actuel pour le rendre plus durable. Les réactions à la réforme ont été mitigées, avec certains qui la soutiennent en tant que nécessaire pour faire face à l'augmentation de l'espérance de vie et à la baisse de la natalité, tandis que d'autres considèrent que la réforme ne fait pas suffisamment pour protéger les travailleurs les plus vulnérables. Ainsi, plusieurs grèves et manifestations ont traversé le pays, comme le 19 janvier où plus d'un million de personnes se sont rassemblées. Après le succès du 19 janvier, les syndicats ont réussi à mettre encore plus de monde dans la rue ce 31 janvier. CFDT, CGT, FO, FSU et d'autres composantes de l'intersyndicale ont déjà appelé à deux nouvelles journées de grève et manifestations en ce mois de février. Toujours en France, le Parti Socialiste au bord de la rupture. Tout commence le 19 janvier avec l'élection interne du premier secrétaire du parti. L'événement a viré au drame. En effet, les deux candidats Faure et Mayer-Rossignol se sont tous deux autoproclamés victorieux et accusés l'un l'autre de fraude. Les deux camps se sont retrouvés pour recompter les voix et analyser les irrégularités, notamment lors du congrès du PS à Marseille le 29 janvier. Un accord entre les deux finalistes a été trouvé et donne Olivier Faure vainqueur de l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste. La place du premier secrétaire délégué est attribuée à Nicolas Mayer-Rossignol, avec Johanna Roland, maire de Nantes et soutien de Faure. Côté culturel, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême se tenait du 26 au 29 janvier. Cet événement annuel célèbre le 9e art en rassemblant des auteurs, illustrateurs, éditeurs et des professionnels ainsi que des fans du monde entier pour célébrer et honorer les meilleures bandes dessinées de l'année. Le festival comprend également des expositions, des conférences, des dédicaces et des concerts. Le jury de la 50e édition a décerné le grand prix du festival à Riyad Satouf, l'auteur des Cahiers d'Esther ou encore de l'Arabe du futur. Et le Fauve d'or du meilleur album a été attribué au Suisse Martin Panchaud pour La couleur des choses. Et on termine avec du sport ou handball masculin. Le Danemark prive la France de son 7e titre de champion du monde. Les Danois se sont offerts le 29 janvier un 3e sacre mondial consécutif au détriment des Français à 34 à 29. Menés pendant tout le match et faisant face à un gardien danois exceptionnel, les Bleus n'ont pas réussi à combler leur retard, mais s'envolent tout de même pour la 2e place. Le récap, c'est terminé. Je vous retrouverai le mois prochain pour le récap de février.
Et merci Noah pour ce super récap. Maintenant, on va rester dans l'actualité, mais cette fois d'un point de vue plus géographique, avec une nouvelle chronique, je vous l'ai annoncé tout à l'heure en début d'émission. Donc nouvelle chronique, comme je disais, qui rejoint l'émission sortée. Mesdames et messieurs, je vous présente la revue géographique par Paul. À toi de jouer, Paul.
Bonjour à tous et bienvenue dans la revue géographique. La chronique étudiante relatons un fait d'actualité marquant avec un regard de géographe. Le principe est simple. Après avoir exposé un événement qui a fait couler de l'encre dans la presse et dans les médias, nous présenterons brièvement le lieu où cet événement en question s'est déroulé. L'échelle d'étude est variable. Il peut aussi bien s'agir d'un petit quartier que d'un grand continent. Ainsi, les objectifs de la chronique sont les suivants. Tout d'abord, d'informer et surtout de donner envie à vous, chers auditeurs, de vous refamiliariser avec la géographie en dépoussiérant les vieilles cartes et les atlas du collège. Nous intégrerons dans l'émission toute notion ou élément s'approchant de près ou de loin avec la discipline géographique. Il peut s'agir de termes sociologiques, d'éléments d'analyse géopolitique ou bien évidemment de rappels historiques. Pour ce premier épisode de la revue géographique, enfilons nos lunettes de soleil, munissons-nous d'un dictionnaire de portugais et préparons-nous au décalage horaire, car nous nous aventurons au pays de la samba et de la capoeira. Bienvenue au Brésil. Le 8 janvier 2023, la place des trois pouvoirs de Brasilia, la capitale du Brésil, est le théâtre d'un mouvement populaire inédit. Le palais présidentiel du Planalto, le tribunal suprême fédéral et le congrès, trois institutions politiques majeures de la démocratie brésilienne, sont envahis par des partisans du président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Cet acte insurrectionnel d'envergure a provoqué un séisme médiatique en Amérique du Sud et a bouleversé le début du mandat du président Lula, alors entré en fonction le 1er janvier 2023. Luiz Inácio Lula da Silva, plus communément appelé Lula, est un homme politique historique au Brésil. Ancien ouvrier métallurgiste, Lula a progressivement gravi les échelons sous l'étiquette du Parti de gauche des travaillistes qu'il a fondé pour devenir président de 2003 à 2010. Après 10 années ponctuées par des écueils juridiques, Lula a été élu pour un troisième mandat, face à Jair Bolsonaro, en 2022. Les incidents du 8 janvier n'ont pas eu de conséquences directes pour son gouvernement et n'ont pas causé de drames humains. Les séditieux bolsonaristes sont recherchés, voire arrêtés pour 1500 d'entre eux, et des responsables sont ciblés dans l'organigramme gouvernemental, parmi lesquels Ibanez Roca, gouverneur du district fédéral de Brasilia. Néanmoins, comment le Brésil, qui a fait de son régime démocratique une force, a pu se retrouver dans une telle situation de fragmentation sociale et politique? Pour cela, faisons appel à la géographie pour comprendre. Le Brésil est un pays d'Amérique du Sud et se place parmi les pays les plus peuplés au monde avec 215 millions d'habitants. Il s'agit d'une ancienne colonie portugaise qui, le 7 septembre 1822, a vu Pierre de Portugal déclarer son indépendance dans un discours resté célèbre appelé le cri d'Ipiranga. Depuis, le 7 septembre est le jour de la fête nationale brésilienne et le portugais en est sa langue nationale. Aujourd'hui, le Brésil est un pays économiquement puissant. 9e PIB mondial et première puissance régionale, il s'agit d'un des 5 États avec la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud à avoir émergé grâce aux bénéfices de la mondialisation. Nous les appelons les BRICS. Situé au carrefour des cultures et du métissage, le Brésil est connu de tous pour l'iconique Christ Rédempteur de Rio, la forêt amazonienne, poumon de la terre menacé par la déforestation massive, et pour la Seleção, équipe de football nationale et véritable objet de fierté du pays de l'ordre et du progrès. Ordre et progrès, telle est la devise du philosophe positiviste Auguste Comte figurant sur le drapeau Oriverde. Mais aujourd'hui, pouvons-nous encore parler d'ordre et de progrès au Brésil ? En effet, le pays du football est ainsi un pays socialement divisé, marqué par des inégalités économiques fortes entre ses habitants. De nombreuses familles s'endettent et la précarité du travail renforce davantage l'acuité de la crise sociale et économique frappant le pays. Internationalement isolé suite à la récente mandature de Bolsonaro, le gouvernement de Lula est confronté à d'immenses défis pour redresser le Brésil et réunifier sa population. Une année et demie passée derrière les barreaux après une condamnation controversée pour corruption n'a pas empêché Lula de briguer un troisième mandat de président de la République. Ce mouvement de sédition du 8 janvier, qui a fait l'objet de nombreuses comparaisons avec l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021, symbolise les dissensions politiques et sociales majeures qui fracturent le Brésil. Actuellement, c'est sur les débris des vitres brisées et des tableaux saccagés du Planalto que Lula va faire face à un des plus grands défis de sa carrière politique, réanimer le Brésil. C'était Paul pour le premier épisode introductif de la revue géographique avec Radio Campus Tours.
Et merci Paul pour cette super nouvelle chronique. Et n'oubliez pas, chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Sortez sur le site de la radio, donc www.radiocampustours.com. Et maintenant, place à la musique avec le nouveau numéro du JCVD, Jingle.
Le Gourlou, dans 20-30 ans, elle n'aura plus. JCVD.
C'est le jeudi compilation de vos découvertes. Chez CVD, c'est le jeudi compilation de vos découvertes. Chez CVD, le jeudi compilation de vos découvertes. C'est la liberté sur Radio Campus Tour, t'en sortez.
Et oui, alors avant de vous partager la première reco de ce JCVD, jeudi compilation de vos découvertes, je vous rappelle le principe, si tu as une musique, un artiste que tu viens de découvrir et que tu souhaites les partager à plein de gens, contacte-nous en message privé pour nous faire part de tes recommandations avec une petite description ou une petite anecdote si possible. Tu pourras retrouver ta super reco dans une de nos émissions du jeudi. Et on commence sans plus tarder avec la recommandation de Hatte Rémi l'écureuil qui nous propose le son d'un artiste que beaucoup connaissent. Il s'agit de Vald avec son titre Eurotrap. Bon, comme je l'ai dit, c'est quand même un rappeur assez connu du grand public, mais je vais quand même faire une brève description de l'artiste pour que personne ne soit perdu. Donc Val, de son vrai nom Valentin Ledu, est un rappeur, producteur et parolier français. Il découvre le rap vers ses 15 ans en surfant sur internet et en tombant sur Kery James. Il commence à rapper à l'âge de 17 ans. Encore aujourd'hui, il affirme lui-même ne pas avoir une grande culture dans le genre à cause de cette découverte tardive. Il sort ses premières mixtapes NQNTMQMQMB, donc qui veut dire ni queue ni tête mais qui met quand même bien, en 2012, et il sort aussi cours de rattrapage dans le courant de la même année. En octobre 2014, il sort son premier EP NQNT, donc ni queue ni tête, signé sur le label du rappeur Tunisiano. Par la suite, il sort en juin 2015 le clip de son morceau Bonjour, avec lequel il fait remarquer sa propension pour l'absurde et atteint rapidement les millions de vues. Morceau qui apparaîtra sur son deuxième EP NQNT 2, sorti en septembre 2015 et qui se classe premier des ventes numériques hebdomadaires et 11e, tout support confondu en France. Son premier album studio intitulé Agartha paraît en janvier 2017. Certifié platine, l'album s'écoule à plus de 100 000 exemplaires portés par les singles Ma meilleure amie et Vitrine, feat Damso, qui seront tous les deux certifiés single or. En 2018, Vald revient avec un album Xeu, annoncé par le tube Désaccordé. Critique de la société, notamment sur le rôle du capitalisme et des médias, son troisième album intitulé Ce monde est cruel, publié en 2019, est analysé comme plus sérieux et politique que les précédents albums. Vald crée son label indépendant Echelon Records en 2020. Son quatrième album V, Disque d'or, en une semaine reçoit de nombreux éloges. Et enfin, le rappeur vient de sortir son dernier album VV5 en décembre 2022. Et donc, notre cher Rémi nous propose aujourd'hui pour le JCVD un titre de l'album Agartha, Eurotrap. On écoute ça tout de suite, dans Sortez.
Voilà, pour le moment ça ne vous dit rien. Vous connaissez pas la trappe de Viking ou pas? On va faire la trappe de Viking, mec.
J'ai tellement la pêche quand y'a plus de ce plat dans mes poches. Oh oui, le bose m'explose la tête, remballez vos cochonneries. J'suis grand et petit comme le boson X. J'ai la patte qui colle à cause de Mia Nicole. On ne rigole pas avec mes idoles. Hey, je me branle, j'fais du bif, c'est nickel. Je te mange, je te nique, tu te manges, le vide, le nez vers les étoiles avant de finir enseveli. Bitch, te perds pas dans le sevi, moi j'suis pour de vrai. Je peux tout le faire, je peux nous refaire. Tu fais pour le sgeg, j'fais des commentaires, donc tu t'améliores. Je vais ramener l'or, crier Mazel Tov lorsque Vald descend. J'ai le regard dans le vide comme Joe et Budden. Comme je m'enrichis, je prends de la bedaine. Bosse de méga shit pour que je la reperde. A ma droite le verre, donc à ma gauche le terre. Cartels sont mes repères et la planète accouche de cartels de merde. Ouais mais je m'en fous, je veux juste de quoi perdre la boule dans une sacoche du bled.
Vous avez demandé le refrain. Ne quittez pas. Vous avez demandé le refrain. Ne quittez pas. Un conseiller va vous prendre dans quelques minutes.
Comment faire du rap sans être dissident, hein? Comment faire du rap sans être dissident, hein? Comment faire du rap sans être dissident? Si c'est trop dividend, j'espère tu niques ta mère, bordel diligent.
Tire des balais dans le cul. T'as vu mon face, elle se prend du buzz. Maintenant t'arrives super à l'aise en stud. Moi ça me fait plaisir. Seulement je suis presque parfait, toi t'es sacrément nul. Ta clique de sacré pampu. Qu'est-ce que t'as fait à part aller dans le mur? Le pare-brise en puzzle.
Le massacre est précis.
J'ai de l'amour et du marron, je suis incompris comme Eddie Malou. Bitch, un bon prix, puis je fais des marrants. J'ouvre des portes pour la galanterie. La vie c'est dur, c'est pas demi-molle. Oreille sifflante lorsque je m'isole. Étoile filante lorsque je rigole. Aucun sentiment pour un meuf frivole. Non, 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 si j'ai pas les armes, je vais manigancer. Vu que t'es quasi pute et puis quasi ombré. C'est l'heure de ta chute sur ma quasi haut. Putain, je fais du blé, puis ça me fait du bien. Putain, fais du pied, putain, veux du VV. Putain, dans lumière, putain, dans le noir. Putain, pète un plomb, putain, dans Uber, putain, au revoir.
Comment faire du rap sans être dissident, hein? Comment faire du rap sans être dissident, hein? Comment faire du rap sans être dissident? Si c'est trop dividant, j'espère tu niques ta mère pendant ta diligence.
Je veux tous c'est de l'admettre, je pourrais te la mettre. Mais y'a un truc qui me retient, pute, fils de chien. D'où tu te permets, tu ne piges de rien. Sans loyauté, y'aura pas de royauté. J'ai mal aux pieds, pétasse vient m'aborder. Regarde-moi barboter, je suis dans l'aquarium. Je te parle comme ton repas, je suis dans ta daronne. Déjà repu avant même le repas. Je rappe la repu que Bibi la queufnar. Je vis comme un mort et la lettre de mort sur mon kefta. Je sais pas qu'est-ce que t'as, t'es la fella feignasse. Devant le chemin des dames, un homme t'es là, fella, fella. Je mange des falafels devant des caméras. Je paierai les faces qui n'ont rien à voir entre elles. Je dédouane des tasses qui n'ont rien à voir entre elles. Je bédave et passe des journées qui n'ont rien à voir entre elles. En fait, je m'emmerde, je crois que c'est ça l'enfer.
Comment faire du rap sans être dissident, hein? Comment faire du rap sans être dissident, hein? Comment faire du rap sans être dissident? Si c'est trop dividant, j'espère tu niques ta mère pendant ta diligence.
Et c'était Eurotrap de Vald pour la recommandation de JCVD avec la suggestion de Rémi. On va maintenant passer à la seconde recommandation de ce JCVD avec la suggestion de Étienne Rémy, Baraka de Jesta, Jetsa et Mong. De sa première histoire d'amour avec le hip-hop et à sa course folle à travers la scène house des années 90, le DJ et producteur parisien Jetsa Sondorom n'a jamais cessé d'explorer les multiples facettes de la musique. Interprète, auteur et compositeur, Eric Mong, influencé par la musique soul, pop et électronique, enrichi de ses collaborations et de ses expériences musicales depuis des décennies, a voulu faire l'expérience d'un duo créatif et libre. Septembre 2019, les deux artistes ne se connaissent que par les éloges d'un ami commun. Ils se retrouvent lors d'une performance impromptue lors d'une soirée privée. C'est la rencontre des deux énergies. De la house à la techno, un savant cocktail d'expérimentation groove, soul et vocale, rythmé, cadencé par deux esprits aussi humbles que généreux. Et aujourd'hui, pour le dernier JCVD de la semaine, notre ami Étienne nous propose un titre de leur dernier album Chapter One, sorti en juillet 2022. On écoute Baraka de Jetsa & Mong sur Radio Campus Tour.
Can you feel it?
Voilà, c'était Jetsa & Mong avec Baraka pour la recommandation de Étienne Rémy. Et c'est ainsi que se conclut ce JCVD. On le rappelle, si tu as une musique, un artiste que tu viens de découvrir et que tu souhaites les partager à plein de gens, contacte-nous en message privé sur notre compte Instagram @sortez_radiocampustour pour nous faire part de tes recommandations avec une petite description et ou une anecdote si possible. Tu pourras retrouver ta super recommandation dans une de nos émissions du jeudi. Et maintenant, on va clôturer l'émission avec un petit point culturel. Place à l'agenda culturel de sortie. Jingle. Et on va commencer tout d'abord avec l'actu du Bige 37 qui est heureux de vous annoncer que le forum Job d'été aura lieu le mercredi 5 avril 2023 à l'hôtel de ville de Tours de 10h à 18h. Afin de faciliter l'accès à l'emploi des jeunes et de les rapprocher du monde professionnel, plus de 35 organismes recruteurs seront présents pour répondre à leurs besoins de recrutement saisonnier à travers ce job dating. Sur place, vous retrouverez également un espace information où des professionnels seront disponibles pour renseigner les jeunes sur le droit du travail, l'insertion professionnelle, mais également l'engagement ou encore la mobilité internationale. Et donc l'entrée est libre et gratuite et ouverte à tous et à toutes. Et à noter qu'il est conseillé de venir avec son CV. Ça fait toujours un peu plus sérieux. On passe maintenant à la deuxième actualité, donc cette fois une actualité de la compagnie La Clé, qui fête cette année ses 25 ans. Donc à cette occasion, elle se produit avec son spectacle phare Catch Impro, le vendredi 24 mars 2023 à 20h30 à l'espace culturel Yvrenot, à Chambrey-les-Tours. Il sera suivi d'un DJ set exceptionnel de Zoé Colotis de Caravan Palace. Catch Impro met en scène deux duos de catcheurs improvisateurs, des comédiens professionnels qui s'affrontent à coups de répliques pendant deux rounds de 45 minutes sur le ring, sous la houlette d'un arbitre implacable. Né en 2007, ce spectacle d'improvisation théâtrale n'a pas pris une ride. C'est là toute la magie de l'impro. On peut garantir que le public sera toujours épaté, car il assiste à chaque fois à un spectacle tout à fait différent et original. Le public, justement, est aussi un acteur à part entière. Il prend le pouvoir en proposant ses thèmes aux comédiens et vote pour faire gagner son duo préféré. Men in Black, Bunnies, DJ et commentateurs, c'est une équipe bien rodée qui se charge d'accueillir les spectateurs et de garantir un cadre dans lequel rire et rebondissement sont les maîtres mots. Et donc, qui est Zoé Colotis qui assurera le DJ set? Eh bien, Sonia Fernandez-Velasco collabore avec La Clé depuis près de 15 ans et en devient artiste associée en 2021. Connue également sous le pseudonyme Zoé Colotis, elle est la chanteuse du groupe d'électro-swing Caravan Palace, avec lequel elle tourne dans le monde entier depuis 2007. comédienne, musicienne, chanteuse, auteure, metteuse en scène, Sonia aime se définir en tant que artiste polymorphale. Et donc, si vous êtes intéressé, chers auditeurs, auditrices, sachez que concernant les tarifs par personne, donc vous avez des places en pré-vente entre 13 et 10 euros sur Festik. Vous avez aussi des offres étudiantes, donc une place achetée, une place offerte, donc 8 euros sur Hello Asso avec le pass culturel étudiant. Ou alors, si vous voulez prendre les places au dernier moment, vous avez des places à 16 euros sur place. Donc, on va maintenant terminer avec la dernière actualité. Et on va parler maintenant du grand concert du Nouvel An afghan, 10 jours après la date officielle du 21 mars, salle Hawke Game. Donc l'association qui organise, Dara Afghanistan Touraine, l'organise pour aider les femmes enseignantes privées de leur travail depuis que la chape de plomb talibane s'est abattue sur le pays. Autrefois, c'était pour faire fonctionner leurs écoles. Et pour cela, un formidable groupe a répondu présent, les Dubs. Les frères Dubs ont pris l'habitude de ne pas poser leurs valises trop longtemps au même endroit. C'est sur scène que ces deux personnages clownesques ont élu domicile et invitent les spectateurs à partager ce qu'ils ont de plus précieux, un répertoire constitué de compositions et de danses traditionnelles grecques. C'est accompagné d'une section rythmique, contrebasse et percussion, qu'ils ont créé un ensemble de cordes capable aussi bien d'explorer les émotions les plus intimes que de susciter la folie générale. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié ce torrent de divertissement et d'informations. Et on se retrouvera demain pour la dernière émission de cette semaine, programmation Question Queer. On se dit au revoir et à demain dans Sortez sur Radio Campus Tour 99.5 FM.
chat, chat.